Prions ensemble.
Oui, Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, on a célébré ton nom, on a chanté des louanges, nos cœurs se sont élevés vers toi et se sont réchauffés, et comme on a vu sur l'image qui était projetée, la glace environnante fond, parce que nos cœurs sont remplis de vie, nos cœurs sont remplis de lumière, nos cœurs sont remplis de toi, Jésus. Et tu réchauffes nos vies, tu es le soleil de nos vies, et on veut te célébrer. C'est toi qu'on élève au-dessus de tout. Merci, Seigneur Jésus. On te prie pour que tu sois avec ceux qui sont éprouvés. On pense à notre sœur Sylvie, le service cet après-midi, et tous ceux qui vont y participer. Seigneur, mets ta bonne main sur cela, et que tu puisses toucher des cœurs de ceux qui vont entendre ta parole être proclamée. L'espérance que nous avons en toi, Jésus, est précieuse. Et Seigneur, on te prie pour notre frère Denis. Seigneur, on veut l'entourer, on va continuer à intercéder auprès de toi. Et on veut te demander, Seigneur, de, oui, faire un miracle. On aimerait te voir guérir notre frère complètement. Et Seigneur, merci de ce que son cœur est en paix, en communion avec toi. Il a cette espérance et il est serein à travers tout cela. Continue, Seigneur, à l'accompagner, à marcher avec lui, à le porter même dans tes bras, dans les moments les plus difficiles. Et que nous puissions, Seigneur, continuer à nous joindre à lui et à prier avec lui pour que tu sois glorifié à travers toute cette situation. Et notre espérance est en toi, Jésus. Et Seigneur, on veut se tourner vers ta parole encore ce matin. Elle est riche, elle est vivante. Elle nous parle de toi, elle nous pointe vers toi. Que nos cœurs puissent encore là ce matin être nourris, édifiés, encouragés par ce qu'on va regarder ensemble dans ta parole, dans Jean 10. Et qu'est-ce que veut dire justement entendre la voix de Jésus? Merci. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous éclaire, c'est toi qui nous amène plus loin dans notre parcours avec toi et on veut te donner toute la gloire qui te revient. Amen. Amen. Alors, on a commencé Jean 10, on a fait la première partie 1 à 21, où on a vu le berger, le bon berger, une personne authentique, celui qui devait venir, celui qui était annoncé justement dans Ézéchiel 34, comme étant le berger qui viendrait lui-même paître ses brebis. Et ensuite, on a tombé au verset 22 à 30, et je suis en train de développer une petite série sur le thème de entendre la voix de Jésus. Et qu'est-ce que ça voulait dire justement dans le contexte de Jean 10? Parce que Jean 10 est un contexte particulier où Jésus utilise une image. Et cette image, c'est l'image de l'élevage de moutons, mais pas dans un contexte occidental où c'est souvent industriel, commercial, mais dans un contexte oriental où c'est beaucoup plus personnel, on pourrait dire même familial. Et la relation que Jésus a avec ses brebis, est vraiment spéciale. Et c'est ça qu'il est en train de faire ressortir dans Jean 10. Et parce que c'est tellement intime, parce que c'est tellement relationnel, que là Jésus dit justement que ses brebis à lui, parce qu'il y a une relation qui est établie avec ses brebis à lui, ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation d'établie entre ses brebis et les étrangers, mais il y en a une entre lui et ses brebis, et ses brebis le reconnaissent et donc répondent favorablement, positivement à sa voix, à ses directives et à ce qu'il est en train de faire. Une petite rétrospective très, très rapide. Alors, selon Jésus, entendre sa voix requiert une intervention d'en haut et une disposition d'en dedans. Donc, c'est une capacité spirituelle qui vient de Dieu et une disposition intérieure du cœur qui permet aux brebis d'entendre la voix de leur berger et d'entrer en relation avec Jésus pour grandir en lui, partager la foi et servir. Ça, c'est notre déclaration de vision. Entrer en relation avec Jésus pour justement grandir en lui, partager la foi et servir. Ce que Jésus appelle « Ils me suivent ». Alors, voici comment ça se traduit. C'est quoi le véritable enjeu? Bien, le véritable enjeu d'entendre sa voix, c'est de saisir et comprendre le sens des Écritures. Ce que même les Juifs, en général, n'étaient pas capables de faire. Ils ne comprenaient pas le sens des Écritures. Et même si vous vous rappelez, les disciples eux-mêmes ont eu beaucoup de difficultés à comprendre ce sens-là des Écritures, parce qu'ils avaient tellement de présuppositions, ils avaient tellement de conceptions préétablies de ce que devait être le Messie, ce que le Messie devait accomplir, qu'ils ne comprenaient pas le sens que Jésus voulait qu'ils comprennent des Écritures. Et ce sens, c'est le suivant, c'est le sens rédempteur et christologique des textes sacrés, ce qu'on appelle l'Évangile. Voyez, il a fallu quand même aux disciples d'Emmaüs, Jésus revienne. Mais ça, c'était après la crucifixion, après la résurrection. Et là, il a repris les Écritures et il leur a expliqué le sens rédempteur et christologique des Écritures, de tout ce qui existait à ce moment-là, qu'on appelle Écritures, qui était l'Ancien Testament, les 39 livres que nous, on a dans notre Bible aujourd'hui. Naturellement, il n'y avait pas les livres du Nouveau Testament, mais Jésus a parcouru l'Ancien Testament et il a expliqué ça aux disciples d'Emmaüs. Il fallait qu'ils voient qu'est-ce que voulait dire la venue de Jésus, pourquoi il fallait qu'il meure sur la croix, pourquoi il était important qu'il ressuscite des morts. Et ça, c'était la bonne nouvelle qu'il devait annoncer plus tard. Et donc, même comme... ce matin, à la table du Seigneur, Joël a pris le temps de voir que même dans l'Ancien Testament, ça pointe vers cette direction. Et c'est un peu ce que Jésus a fait en l'appliquant à sa personne et à pourquoi il était venu. Une telle compréhension est à la fois spirituelle et intérieure. Et c'est pour ça qu'il faut que ça vienne de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait une disposition de cœur appropriée. Alors, elle vient d'en haut de Dieu et d'en dedans, d'une disposition intérieure particulière qu'on voit que Jésus nomme comme étant celle d'un petit enfant, dans Matthieu 11, 25 à 27. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit se passer à l'intérieur de nous et quelque chose qui doit venir de Dieu. L'initiative vient de Dieu. Dieu doit agir, Dieu doit intervenir. Alors là, ce qu'on s'est demandé, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? On avait terminé un peu avec ça la dernière fois. Et c'est la réponse, on aurait pu dire heureusement, mais absolument, oui, sans aucun doute. Dieu a parlé dans le passé, il parle encore aujourd'hui, puis il va continuer à parler jusque dans l'éternité. Il est un Dieu relationnel. Et en ce sens, il est un Dieu qui communique. Voyez? Même Francis Schaeffer avait écrit un livre à un moment donné qui disait « Un Dieu ni silencieux, ni lointain », en parlant que Dieu interagit encore avec nous, tout comme il a interagi dans le passé. Maintenant, la question, c'est peut-être pas pour nous, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Parce qu'on dit « Ben oui, c'est sûr, nous on comprend ça que Dieu parle encore aujourd'hui ». Mais la question qui est souvent débattue, c'est comment est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Alors, lorsque nous éprouvons des difficultés à entendre sa voix, nous éprouvons des difficultés au cœur même de notre expérience chrétienne. Et c'est souvent ça qui se passe avec chacun d'entre nous. Lorsqu'on a de la difficulté à avancer, lorsqu'on a de la difficulté à prendre des décisions, lorsqu'on a de la difficulté à faire la volonté de Dieu, c'est que dans le fond, on n'est pas en train d'écouter la voix de notre berger. On n'est pas en train de chercher même à entendre sa voix. Et là, ça cause toutes sortes de problèmes dans nos vies. Entendre sa voix, est-ce qu'il y a de plus essentiel à la venue de Jésus sur terre et à notre vie? Donc, il n'y a rien de plus crucial que cela. J'espère que j'ai été capable de bien vous le communiquer. Rien d'autre ne pourrait influencer autant notre réalité présente, notre parcours de vie puis notre destinée future. Rien. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tout ça tourne autour d'un seul thème, notre relation avec lui. C'est ça que ça veut dire, voyez? Donc, plus ma relation avec lui est bonne, plus ma relation avec lui est vivante, qu'elle est dynamique, qu'elle est quotidienne, ben plus l'impact dans ma vie va se faire sentir. Et moins c'est vrai, eh bien, plus là les problèmes vont surgir dans ma vie. C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. La vie chrétienne, c'est très, très simple. Mais en même temps, malheureusement, souvent pour nous, ça devient très compliqué et ça, c'est malheureux. Maintenant, Dieu parle encore aujourd'hui. Pourtant, on voit des silences de Dieu. On le voit dans l'histoire de l'Église. On le voit aussi dans l'histoire de l'Ancien Testament du peuple juif. Ensuite, on va voir les moyens par lesquels Dieu parle aujourd'hui. Donc, il y en a au moins 9 que j'ai répertoriés. Et là, je vais essayer de rentrer ça ce matin à l'intérieur du temps que j'ai. Et là, je vais voir jusqu'où je vais me rendre. Les pièges aussi qu'il faut éviter. Et la règle d'or à suivre. Et finalement, les bonnes questions à poser pour reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, je veux prendre le temps vraiment de passer à travers ces choses-là parce que cette question-là, comme je l'ai dit tantôt, elle est tellement importante. Elle est tellement cruciale pour nos vies et notre relation avec Dieu et même tout ce qu'on fait et tout ce qu'on prend comme décision. Alors, les silences de Dieu. Néhémie 9, 26 à 31, on le voit pendant la période des juges et celle de la déportation et de l'exil, que là, il y a eu des silences de Dieu. Et même dans les juges, on dit souvent qu'il y a un verset qui est clé, qu'il y a une phrase qui résume tout le livre des juges. La savez-vous? Certains d'entre vous, sûrement, vous la connaissez. Ça dit... Ah, mais ça, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas... Mais ça va avec ça. Ah, OK, bon, ben. Mais c'est vrai aussi en même temps, parce que 1 Samuel, il est dans la période des juges, OK? Alors, mais ça dit quoi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voyez-vous? C'était ça la problématique de toute cette période-là, puis tu lis ça, puis c'est dit « wack ». C'est affreux, les affaires qui se passaient là, puis ainsi de suite. Et là, quand le peuple criait à Dieu, Dieu lui donnait un juge, alors un représentant pour que là, il puisse venir en aide au peuple. Mais la caractéristique de toute cette période-là, c'était que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Autrement dit, chacun ne se préoccupait pas de ce que Dieu avait à dire. Chacun n'entendait pas la voix de Dieu. Chacun ne se souciait pas de faire la volonté de Dieu et donc même de la connaître, cette volonté-là. Et là, il faisait ce qui leur semblait bon. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux encore pour nous aujourd'hui. C'est pas parce que là, ils étaient dans l'Ancien Testament que c'était dangereux, puis là, pour nous, c'est différent. Non, c'est encore vrai aujourd'hui. Si je fais ce qui me semble bon, donc j'écoute ma voix, j'écoute mon raisonnement, j'écoute mes pensées, j'écoute ce qui me semble bon, bien là, je m'en vais à la déroute. Et c'est sûr que je vais prendre des mauvaises décisions. Et je vous dis, ça, c'est la chose qui, pour moi, parfois m'attriste le plus. Quand que j'ai beau ouvrir les Écritures, j'ai beau regarder ce que la Bible dit, mettons, avec une situation qu'une personne vit, qui est chrétienne et qui désire suivre le Seigneur et tout ça, et là, on dit, OK, on va regarder ce que la parole de Dieu enseigne sur ta situation dans laquelle tu es, parce que j'aimerais que tu vois ce que Dieu a à dire. C'est pas ce que Benoît pense qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et là, on rouvre les Écritures, et là, on le regarde, et là, on dit, regarde, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que ça dit ici? OK, ça dit ceci. Maintenant, toi, ah ben là, moi, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Non, mais là, il y a des circonstances, là, c'est comme, là, tu comprends pas. Et là, finalement, ça fait quoi comme conclusion? C'est que malgré le fait d'avoir ouvert les Écritures, malgré le fait d'avoir pris le temps d'expliquer ce que le texte le dit, malgré le fait d'avoir vu que c'est bien ça que, parfois c'est même Jésus qui peut parler lui-même, ou parfois c'est Paul ou un autre, peu importe, c'est la parole de Dieu, mais là, c'est comme... Ça n'a pas rapport, en tout cas, pas à ma situation. Et là, moi, je suis vraiment, honnêtement, là, je suis bouche bée. Et j'ai les bras, et là, je dis, ben, c'est triste. C'est triste, parce que ce qui s'en vient, c'est sûr que c'est un désastre. Tout comme c'est arrivé ici dans le texte de Néhémie, et je ne prendrai pas le temps de lire, mais vous pourrez aller lire les versets 26 à 31, mais c'est clair que Dieu les a laissés à eux-mêmes, Dieu les a livrés à leurs ennemis, et ils ont eu à vivre toutes sortes de troubles et de problèmes simplement parce qu'ils ont fait à leur tête. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et ensuite, ils se sont égarés, et même Dieu, dans ce sens-là, a cessé de leur parler, a cessé de... Il les a laissés aller, jusqu'à temps que, ici on le voit dans Néhémie, où là, tout à coup, oh! Espoir! Oh! Retour à la parole de Dieu. Et on sait que dans Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prophète, hein? Il y a Esdras. Esdras, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est fantastique. Esdras... Ils rouvrent les Écritures à nouveau. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas ouvert les Écritures. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu. Ça faisait des années qu'ils n'avaient jamais plongé leur regard dans tout ce que la parole de Dieu avait déjà. Et là, ils redécouvrent la parole de Dieu. Puis ça dure des heures de temps. Puis là, tout le monde est là. Les enfants sont là. Les familles sont là. Et puis là, parce que là, la parole de Dieu, et ça dit en plus qu'Esdras prenait le soin d'expliquer les Écritures, de comprendre le sens de ce qui était ici enseigné, tellement qu'ils étaient rendus inalphabètes spirituellement parlant. Et là, quand ils ont compris le sens des Écritures, savez-vous ce qui s'est passé? Il y a eu un réveil spirituel. Ils ont mis leur vie en règle avec Dieu. Et là, ils ont fait ce que la parole de Dieu enseignait. Ils ont rétabli des fêtes. Ils ont refait les choses que ça faisait des dizaines et plus d'années qu'ils ne se préoccupaient plus de ça du tout. Donc, les silences de Dieu, qu'est-ce qu'elles vont montrer? Elles vont montrer plutôt un signe de désolation, un signe d'égarement, un signe de sécheresse spirituelle ou encore d'endurcissement de cœur, un signe même de désespoir et parfois, comme ici dans Néhémie, même un signe d'un jugement que Dieu doit faire parce qu'il ne peut pas nous laisser aller à la dérive impunément et tout le temps. Et ça, c'est triste. Maintenant, les moyens par lesquels Dieu parle aujourd'hui. On va voir que Dieu parle à travers différents moyens, comme, et là je sais que vous en connaissez, en fait vous les connaissez tous, mais j'aimerais surtout montrer le rôle de chacun et comment aussi certains jouent un rôle beaucoup plus important que d'autres. Et là vous allez voir un peu comment ça va s'imbriquer l'un dans l'autre. Mais le premier moyen certainement, c'est la Bible elle-même. Et là on a 2 Timothée 3, 15 à 17. Et 2 Pierre 1, 16 à 21. Deux textes bibliques qui établissent clairement l'importance de la Bible. Et là, je vais lire les deux textes et je vais vous dire en même temps le rôle et l'importance que la Bible joue. Alors, 2 Timothée 3, 15 à 17, on lit ceci. Vous pouvez regarder dans vos Bibles si vous voulez. Mais depuis ton enfance, tu connais les Écritures sacrées. Et là, naturellement, il fait référence aux 39 livres de l'Ancien Testament. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé et équipé à toute œuvre bonne. 2 Pierre 1, 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Donc, ils ont été témoins, eux, ils ont vécu au temps de Jésus. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » C'était une voix audible et ils l'ont entendue. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alors, ils étaient trois à ce moment-là. Mais regardez bien qu'est-ce qu'il rajoute, Pierre. Et je pense qu'ici, c'est vraiment important. Verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Vous savez, ici, et ça c'est vraiment important, la Bible n'est pas juste un moyen, mais c'est le moyen par excellence. Et c'est pour ça que je l'ai présenté en premier. C'est le moyen qui est dans une classe à part. C'est le seul moyen qui est objectif et qui, en même temps, sert de fondement. Pourquoi? Un fondement solide, un fondement autoritaire, un fondement normatif pour tout ce qui concerne la doctrine et la foi. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible, elle est inspirée de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. C'est la Bible qui établit tout ce qui nous concerne en ce qu'on doit croire et en ce qu'on doit faire ou comment on doit vivre notre vie dans tous les domaines. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen aussi exceptionnel, et c'est pour ça que je l'ai appelé le moyen par excellence, et le seul qui a cette caractéristique sur laquelle on devrait tous être basés et sur laquelle ça devrait être le mot final. C'est-à-dire, lorsqu'on vient pour prendre une décision, lorsqu'on vient pour considérer un sujet, quoi que ce soit, il faut se tourner vers la parole de Dieu et dire, qu'est-ce que la Bible enseigne? Et je comprends que même si la Bible a ce rôle-là, que là, on arrive à des interprétations différentes. Je comprends ça, mais Pierre nous donne cet avertissement-là de dire, il faut pas justement qu'on tombe, qu'il y a 8 interprétations, puis les 8 sont bonnes. Notre difficulté, c'est de exposer le texte, de comprendre le texte comme il faut pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit réellement. Et là, je comprends qu'il y a des divergences, même dans le milieu évangélique, parfois sur des choses importantes, mais plus souvent sur des choses que je pourrais appeler secondaires ou accessoires. Et là, il faut être prêt à se respecter les uns les autres lorsque ces choses-là sont accessoires. Si c'est des choses fondamentales qui touchent vraiment à, par exemple, l'Évangile, ben là, c'est sûr que, écoutez, c'est très important que l'on puisse vraiment prendre ce que la parole de Dieu dit et avoir une conviction complète et certaine de dire, moi, ce que je comprends dans la parole de Dieu, je le vois ici et je le vois comme étant exposé partout dans les Écritures. Et il n'y a pas de contradiction avec cela. Et là, ça devient, pour moi, autorité dans ma vie. Regardez vos propres vies, comment la Bible a joué un rôle important, que ce soit au niveau de votre salut. C'est impossible que vous puissiez venir à Jésus sans entendre ce que la Bible a à dire sur comment on est sauvé. Et je ne sais pas dans votre cas, mais moi je sais que dans mon cas, la Bible a joué le rôle central parce que j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai lu les évangiles, j'ai parcouru une bonne partie du Nouveau Testament, j'ai posé des questions à la personne qui était là et qui me témoignait de ma foi. Il a fait venir quelqu'un parce que lui c'était un nouveau croyant, fait qu'il ne peut pas répondre à toutes mes questions. Et là, j'ai posé les questions et il a ouvert la parole de Dieu. Puis à chaque fois, il ouvrait la parole de Dieu puis il disait, regarde ici qu'est-ce que ça dit, regarde ici qu'est-ce que ça dit, regarde ici qu'est-ce que ça dit. Et là, j'étais quoi? Confronté à ce que la parole de Dieu enseignait. Et à un moment donné, j'ai été convaincu que Jésus était le seul par lequel je pouvais avoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Et là, j'ai prié pour demander à Jésus de venir dans ma vie. Mais ça n'a pas été la seule fois où la parole de Dieu a joué un rôle clé. La parole de Dieu a joué un rôle clé après ça pour tellement de choses. Pour juste le fait que j'ai changé de carrière, d'orientation. Dieu m'a, par la parole de Dieu, emmené à voir que sa volonté pour ma vie, c'était aussi le ministère à plein temps. Et là, Dieu m'a montré ça. J'ai arrêté de pratiquer certains péchés, fumer de la drogue, puis là, ainsi de suite. Je me rappelle encore de la dernière fois que je suis allé dans une discothèque, et puis là, comment que le Seigneur m'a montré à travers sa parole et ce que j'étais en train de lire, et puis là, d'être là, puis là, dire, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. Et puis, pouf, j'ai mis ça de côté, j'ai envoyé ça par-dessus bord. Et à chaque fois que j'ai été confronté à des choses dans ma vie, j'ai ouvert les Écritures. J'ai demandé à Dieu de me parler. Je l'ai supplié et j'ai aimé ce que Dieu m'a montré, parce que c'était toujours des réponses qui étaient les meilleures réponses. Et à chaque fois que j'ai écouté sa voix, j'ai toujours pris des bonnes décisions. Quand j'ai lutté avec lui, ça a été des fois par ma désobéissance, mon obstination, que là, Dieu m'a montré en disant, « Tu vois, Benoît, je voulais pas que tu ailles dans cette direction-là, tu es allé quand même, et là, maintenant, tu vois. Oui, Seigneur, c'est vrai, prochaine fois, je vais t'écouter. Hein? » Et la prochaine fois, parfois, je l'écoutais. On est tous comme ça, hein? On a tous un peu de misère, dépendamment qui on est aussi. On peut avoir plus de difficultés que d'autres, mais le Seigneur finit par travailler nos cœurs, mais c'est sa parole de Dieu qui nous laboure. Et je me rappelle aussi quand j'ai commencé à découvrir comment lire la Bible d'une façon plus intentionnelle et étudier la parole de Dieu. Comment étudier, comment on aborde le livre de la parole de Dieu et qu'on peut faire ressortir les vérités qui sont à l'intérieur. Puis là, je me souviens comment que, wow, là, je découvrais des choses, je me disais, hey, wow, la parole de Dieu, elle est riche, c'est incroyable comment en creusant tout ce qu'on peut trouver de la parole de Dieu. Et là, c'est fantastique. Et la Bible, vous savez, c'est une nourriture spirituelle extraordinaire pour nos cœurs. Alors, pas de doute que la Bible, c'est le livre par excellence et c'est le moyen par excellence. Maintenant, le Saint-Esprit. Dieu parle à travers son Saint-Esprit. On le voit dans Jean 16, 12, 14, Éphésiens 1, 16, 19. Jean 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses, Jésus dit, à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, il va vous ouvrir l'intelligence, il va vous ouvrir le cœur, il va vous permettre de comprendre justement toute la vérité qui me concerne. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et ensuite, Paul, dans Éphésiens 1, 16, 19, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Et naturellement, que le Saint-Esprit est en train d'utiliser. Donc, le Saint-Esprit, lui, c'est le moyen le plus puissant pour nous ouvrir les yeux et illuminer notre intelligence, justement pour qu'on comprenne le sens rédempteur et christologique de la venue de Jésus et qu'à travers ça, on puisse recevoir la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Ça, c'est son rôle pour nous emmener à justement entendre la voix de Jésus. Ici, il y a un auteur qui s'appelle Rusty Rustenbach. On est justement en train de traduire son livre qui parle de la prière d'écoute. Et lui, il est directeur des soins pastoraux sur l'équipe de ressources humaines chez les navigateurs aux États-Unis. Mais il a dit ceci dans son livre. Dans 1 Corinthiens 2, 13 à 14, où Paul a dit clairement que l'homme naturel ne peut pas saisir les vérités spirituelles parce que la vérité de Dieu ne peut nous être révélée que par le Saint-Esprit. En fait, Paul termine ce remarquable chapitre en déclarant, « Mais nous, nous avons la pensée de Christ » au verset 16. « Puisque le Saint-Esprit vient habiter en nous à notre conversion, il peut y mettre ses pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu, quand nous réussissons à calmer notre cœur et que nous prenons le temps d'écouter. » Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est justement de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir l'intelligence, de nous illuminer pour qu'on comprenne ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Et à travers ça, Dieu nous parle. Troisième, le Fils de Dieu, Jésus. Jean 14, 7 à 9. Jésus a dit ceci, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu? « Montre-nous le Père. » Donc, Jésus est en train de dire quelque chose d'assez grand ici. Et là, dans Hébreu, et justement, André, la semaine passée, était dans Hébreu, chapitre 1 et 2. Et dans Hébreu, chapitre 1, les versets 1 à 4, on comprend pourquoi. Regardez qu'est-ce que l'auteur dit ici. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé comment? Par le Fils. » Ou on pourrait aussi le mettre ici, « Dieu nous a parlé en Fils. » Donc, ici, il y a une coche bien différente que la manière qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament et aussi que les anges ont eu beaucoup à faire avec comment Dieu s'est manifesté, comment Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, le rôle que les anges ont joué et aussi les prophètes, on voit ici. « Il a établi héritier de toutes choses. » Et c'est par lui qu'il a fait les mondes, ou le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Vous savez, là, personne pouvait rentrer dans cette qualification-là. Soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Et là, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Jésus, étant Dieu, c'est lui qui nous a le plus clairement révélé Dieu. Il n'y avait pas aucun autre personnage de l'Ancien Testament ou même un être angélique qui pouvait faire ça. Mais Jésus, lui, en sa personne, il est exactement ce que Dieu est. Et là, c'est pour ça qu'il a pu dire à Philippe, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père, parce que moi et le Père, on est un. » Donc, il n'y a pas de plus belle description, il n'y a pas de meilleure représentation que Jésus lui-même sur Dieu. Et ça, c'est ici, c'est pour ça que j'appelle que ce moyen-là, c'est le moyen le plus clair et le plus entier par lequel Dieu lui-même s'est révélé aux hommes. En contemplant Jésus, en connaissant Jésus, on connaît le Père. Et parce que Jésus est toujours vivant, eh bien, on peut toujours être en relation avec lui. Et quand Jésus se révèle à nous, eh bien, il nous révèle le Père. Quand Jésus nous parle, eh bien, Dieu parle à travers lui parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est évident que Jésus est encore en train d'interagir avec chacun de nous. Quatrième moyen, la prière, Actes 13, 1 et 2, et puis aussi 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Actes 13, 1 et 2, on voit ici, il y avait dans l'église qui était à Antioche, des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul qui est Paul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en adoration, en train de l'adorer, et qu'ils jeûnaient, et donc on sait que le jeûne est associé à la prière, le Saint-Esprit dit, quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saül, Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant la prière, le Saint-Esprit s'est fait connaître. Le texte ne dit pas est-ce que c'était par une voix audible ou est-ce que c'était par un consensus qu'ils ont eu ensemble que quelqu'un a dit, le Seigneur montre que c'est par, que Dieu veut appeler nos frères à aller à la mission. On ne le sait pas exactement, mais une chose est sûre, c'est que c'était clair. C'était clair la manière que Dieu s'est manifesté. Et c'était dans un temps de prière. 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Trois fois j'ai supplié, j'ai prié le Seigneur, je l'ai supplié de l'éloigner de moi en parlant de cette écharpe dans la chair. » Et il m'a dit quoi? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Encore là, ici, comment est-ce que Jésus a communiqué ça à Paul? Est-ce que c'était une impression dans sa pensée? Est-ce que c'était une pensée qui est venue sur son cœur? Est-ce que c'était quelque chose que Dieu voulait simplement qu'il entende? Tout est possible ici, on ne le sait pas, mais une chose est sûre, Paul sait que Jésus lui a parlé. Et parce que Jésus lui a parlé, il a reconnu sa voix et il savait que ça venait de lui. Et à trois reprises, le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc ici, la prière, c'est le moyen que moi j'ai appelé le plus simple et le plus accessible par lequel l'homme peut rencontrer Dieu, son Créateur, pour lui demander son aide, lui demander sa grâce, son intervention et sa direction. Et dans la prière, Dieu peut faire connaître sa volonté. Il peut nous faire découvrir ce qu'il veut pour nous. Ici, j'ai été chercher une entrevue avec Tim Keller, qui est sur Internet. Et c'est une entrevue qui a été réalisée en octobre 2014, qui était justement sur la prière, sur le culte personnel et sur ce qu'il appelle le mysticisme. Et Timothy Keller, c'est le pasteur de l'église presbytérienne Redeemer de la ville de New York, qui est une église très reconnue, qui grandit, qui a débuté plusieurs églises. Et là, Timothy Keller a écrit un livre qui, malheureusement, je crois qu'il est seulement en anglais présentement, mais qui est « Prayer Experiencing Awe and Intimacy with God ». Donc, ça voudrait dire la prière, l'expérience de ce qui est majestueux, et notre communion intime avec Dieu. Quelque chose semblable à ça. Et là, la question de celui qui l'avait en entrevue lui a demandé ceci. Vous argumentez dans votre livre en faveur d'un mysticisme radicalement biblique. Qu'est-ce que ça veut dire, mysticisme? Ça, c'est ce avec quoi nous, les évangéliques, et peut-être plus conservateurs, on est un petit peu nerveux. OK? Parce que là, ici, vous comprenez, mysticisme, ça veut dire, ben là, c'est plus juste dans la parole de Dieu, là. Là, c'est pas juste qu'est-ce que Dieu m'a montré en lisant la Bible, en l'étudiant. Là, c'est aussi, il s'est passé de quoi que là, entre moi puis Dieu, puis là, c'est comme si Dieu, il venait de me parler, de se manifester à moi. Puis là, ben la prière, naturellement, il se passe des choses dans la prière. Dans la prière, on ne fait pas juste de parler à Dieu, là. Dans la prière, Dieu nous parle aussi. Dieu interagit avec nous. Du moins, il veut interagir avec nous. Alors là, Timothy Keller, dans le fond, dans son livre, a abordé cette question-là. Il existe, pour nous, les conservateurs évangéliques, il existe une place à quelque chose de cette nature-là, là. Puis vous allez voir, il va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, il dit un mysticisme radicalement biblique à l'image de celui de, là, il parle d'auteurs que peut-être vous connaissez pas, John Owen et Jonathan Edwards, qui sont des gens qui ont existé dans l'histoire de l'Église, ou encore comme John Murray le désigne, un mysticisme intelligent. Alors, comment devrions-nous voir le lien entre l'acquisition de la vérité biblique, donc qui est l'étude des Écritures, qui est on appelle la théologie, et l'autre côté, qui est important aussi, qui est l'expérience de la vérité, c'est-à-dire la vie chrétienne, lorsque nous sommes sur nos genoux? Très bonne question. Réponse. Et là, c'est quand même intéressant de voir Tim Keller donner cette réponse. La plupart de nos conceptions évangéliques du culte personnel, du moins celles sur lesquelles j'ai été instruit, ont tendance à mettre le focus essentiellement sur l'étude inductive de la Bible. En conséquence, elles étaient plus centrées sur l'acquisition d'informations et beaucoup moins sur la communion avec Dieu. Comprenez-vous un peu ici où ça s'en va là? C'est-à-dire, en mettant tellement d'emphase sur l'étude de la Bible, ce que ça a eu comme répercussion, c'est que c'est devenu très intellectuel. C'était l'important, là, c'est d'aller chercher de la matière, d'avoir de la connaissance, de la bonne connaissance. Et donc, je reconnais ça. Je suis donc arrivé, là il parle de lui personnellement, à la conclusion que nous devrions, sur une base régulière, mettre de côté du temps pour étudier la Bible, mais en cherchant à comprendre le sens du texte, puis en s'inspirant de notre étude, nous devrions choisir des passages sur lesquels nous aimerions, et là, il parle de méditer pendant notre temps de prière. C'est-à-dire que là, on reprend la vérité et on va avec la vérité dans la prière. Puis là, dans la prière, on en parle à Dieu de cette vérité-là. Et là, on demande à Dieu d'interagir avec notre cœur par rapport à la vérité qui est dans les Écritures. Voyez? Alors là, on utilise la parole de Dieu, la Bible, qui est, comme j'ai dit tantôt, le moyen par excellence, le moyen sur lequel on doit baser notre foi et notre vie, notre doctrine. Et là, ici, il dit, on emmène ça maintenant dans la prière. Et là, on demande à Dieu d'interagir avec nous. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'il mentionne ça. Et ainsi, laisser la porte grande ouverte à Dieu d'interagir avec nous pour être en communion avec lui. Et là, donc, un peu plus dynamique, voyez-vous? Moins connaissance, puis un peu plus expérience. Et là, mais l'expérience de la connaissance. Parce que la connaissance, elle est bonne. C'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais là, maintenant, Dieu a aussi le droit de venir interagir avec mon cœur et là où je suis et appliquer cette connaissance ou cette vérité à ma vie. Et là, je suis en communion avec Dieu. Voyez-vous un peu, c'est ça qu'appelle ici l'expérience de Dieu. J'expérimente aussi la vérité parce que je suis en train d'interagir dans la prière avec Dieu. Regardez ici quelques citations de son livre que j'ai trouvées très intéressantes. La prière est à la fois une conversation et une rencontre personnelle avec Dieu. Nous devons connaître la crainte révérentielle de célébrer sa gloire, l'intimité de découvrir sa grâce et la lutte constante de demander son aide. Tout cela pourra nous conduire à connaître la réalité spirituelle de sa présence. À la page 5. La prière est la seule porte d'entrée vers une connaissance de soi authentique. C'est aussi la porte d'entrée principale par laquelle nous pouvons expérimenter des changements profonds, la réorientation de nos amours ou de nos affections profondes de nos cœurs. La prière est la façon par laquelle Dieu nous donne tellement de choses inimaginables qu'il en réserve pour nous. Et là, il dit vraiment, la prière, c'est ce qui rend cela possible pour Dieu de nous donner plusieurs des choses que notre cœur désire par-dessus tout. Donc, la prière devient vraiment importante ici. C'est la façon par laquelle nous connaissons intimement Dieu, parce que là, nous l'expérimentons, nous le rencontrons. La prière est simplement la clé de tout ce que nous avons besoin de faire et d'être dans la vie. Page 18. Il continue. Jésus, le Christ, a enseigné ses disciples à prier et à guérir les gens avec la prière. Il a dénoncé la corruption de l'adoration dans le temple, lequel se devait d'être une maison de prière. Il a insisté sur le fait que certains esprits mauvais ne pouvaient être chassés que par la prière et le jeûne. Il a lui-même souvent et régulièrement prié avec ferveur, cris et larmes, comme dans Hébreux 5, verset 7, et parfois pendant toute la nuit. Le Saint-Esprit est venu sur lui et l'a oint pendant qu'il priait, Luc 3, verset 21 à 22. Et il a été transfiguré par la gloire divine pendant qu'il priait, Luc 9, 29. Lorsqu'il a fait face à la plus grande crise de sa vie, il l'a fait comment? En priant. Nous l'entendons prier pour ses disciples et l'Église entière la nuit même, avant qu'il n'ait été livré et crucifié dans Jean 17, 1 à 26. Nous le retrouvons ensuite dans le jardin de Gethsémané, en train de supplier son Père et d'être en agonie dans la prière. Finalement, nous le voyons sur la croix, souffrant et mourant, et toujours en priant, même là sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il nous faut pouvoir accéder à nos convictions doctrinales, c'est-à-dire que la connaissance de la vérité, mais il dit d'une manière existentielle, c'est-à-dire vécue dans notre relation avec Dieu et notre vie personnelle. Si la bonne doctrine, c'est lui qui dit ça là, si la bonne doctrine n'est pas accompagnée d'une expérience de cœur, cela va conduire éventuellement à une chrétienté de non et même d'incrédulité ou de non-croyance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'expérience de Dieu. Et s'il n'y a pas d'expérience de Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est impossible d'être en relation avec Dieu et de ne pas vivre Dieu, de ne pas expérimenter Dieu, de ne pas être transformé par la vérité. Et pour Tim Keller, la prière est vraiment un moyen par lequel Dieu nous parle et que Dieu, justement, apporte sa parole au plus profond de notre vie, de nos cœurs. L'ironie est que plus, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi là, hein? L'ironie est que plusieurs chrétiens conservateurs, ceux qui sont les plus préoccupés à préserver une saine et bonne doctrine, sont aussi ceux qui vont négliger le plus l'importance de la prière et vont faire aucun effort pour expérimenter Dieu. Autrement dit, ils sont tellement concentrés sur la connaissance de la vérité qu'ils en oublient tout le reste. Et Jésus dirait, vous en oubliez l'essentiel. La connaissance n'est là que pour vous transporter dans ma présence et vous emmener à expérimenter qui je suis. Pourquoi je suis venu? Ce que je veux faire dans vos vies? Et pour Timothy Keller, le moyen le plus simple, le plus accessible, c'est la prière. Parce que là, on rencontre Dieu. Voyez? Surtout si on le fait de la façon qu'il le suggère. Pas juste d'aller à Dieu pour lui donner une liste de pétitions, de nos besoins, de tout ce qu'on veut qu'il fasse, tout ça, mais pour intercéder auprès de Dieu, de dire comment cette vérité-là s'applique à moi, Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec moi? Pourquoi j'ai tant de peur, de crainte? Pourquoi est-ce que je lutte tellement avec telle chose, avec tel problème, avec tel péché? Pourquoi est-ce que mon caractère ne change pas? Pourquoi est-ce que je retombe constamment dans les mêmes choses? Tu dis ici que la vérité va nous libérer. Jésus, je suis pas libre! C'est quoi qui se passe? Peux-tu me le montrer? Mais c'est dans la prière. Et vous savez, chacun d'entre vous, lorsque vous avez vécu des moments de revirement dans vos vies, c'est parce que vous avez crié à Dieu. Vous avez prié, c'est ça? Vous avez dit, je suis plus capable, j'arrive pas, je sais pas, je comprends pas, j'essaye. Je vois dans mon coffre d'outils tout ce que je sais, tout ce que j'ai, ça fonctionne pas. Le constat, c'est j'ai une vie d'échec où j'ai tel problème, telle difficulté. Oh Jésus, aide-moi, viens à mon secours. Et puis là, tout à coup, notre cœur s'ouvre. Et là, tout à coup, le ciel s'ouvre. Et là, tout à coup, la parole de Dieu devient vivante dans nos cœurs. Et là, Dieu nous parle. Dieu interagit avec nous. Vous savez, je n'ai pas terminé, mais je vais terminer une autre fois. Mais je vais terminer avec ceci. Vous savez, je suis comme vous, un simple homme. Je ne peux pas dire une simple femme, parce que là, je suis vraiment un homme. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un être humain, un simple être humain. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis vraiment les mêmes dilemmes. J'ai les mêmes besoins que vous. Et heureusement qu'on a le même sauveur. Ou du moins, on a accès au même sauveur, au même berger. Une des choses avec lesquelles le Seigneur travaille beaucoup dans ma vie, c'est la suivante. Je l'appelle le combat de mon cœur. Et vous savez, c'est très utile de connaître le combat de son cœur. Parce que ça, c'est récurrent dans nos vies. Ça, c'est là où la parole de Dieu devient tellement importante, tellement essentielle. Parce que c'est là que Dieu veut me donner la victoire sur le combat de mon cœur. Mais le combat de mon cœur, c'est, Benoît, si toi, tu fais pas les choses ne se feront pas. Si toi, tu le fais pas, personne ne va le faire. Si toi, tu y penses pas, personne ne va y penser. Dieu, il n'y a pas de garantie. Hein? Il n'y a pas de garantie que si je fais pas, si je pense pas, si je prévois pas, que je peux compter sur lui. Ça, c'est le combat de mon cœur. Okay? Je suis très transparent avec vous, là. Et c'est pour ça que si je regarde dans ma vie, des versets qui m'ont parlé beaucoup, et même des chants qui me parlent beaucoup, ça me rappelle que Dieu est là. Hein? Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de toi, quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Ah là, mon cœur, là. Mon chant, mon baptême, la nature parle d'un créateur. C'est exactement la même vérité qui est en train de labourer mon cœur pour me dire, Dieu, il est là, je suis pas tout seul, je peux compter sur lui, ne promène pas des regards inquiets, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Vous voyez ça? Alors, donc, quand j'ai des victoires, c'est parce que là, la vérité de Dieu grabe mon cœur puis dit, non, le Seigneur, il est là. Benoît, c'est pas vrai que tu es tout seul. Benoît, c'est pas vrai que faut que tu penses à tout. Benoît, c'est pas vrai que. Pas vrai. Ben, arrête de t'inquiéter, puis arrête de. Benoît, repose ton cœur sur le Seigneur. Il est là, il est présent. Alors, je vous dis ça parce que, il y a quelques temps, pas cette année, ni l'année passée, mais il y a quelques temps, j'étais assis, puis c'était pendant le temps de louange. Puis là, pendant le temps de louange, pendant la semaine, ça, j'avais rencontré différentes personnes pour les aider dans leur parcours avec le Seigneur, leur cheminement et tout ça. Puis, dans un temps de prière, justement, le Seigneur s'était manifesté et avait touché le cœur du couple avec qui j'étais. Et une des façons que le Seigneur avait utilisées, c'est qu'il avait ramené dans la prière un chant avec des paroles précises. Et puis, OK, alors là, on a regardé le chant, puis là, le chant parlait au cœur vraiment du couple en question. Alors là, je suis assis le dimanche qui a suivi, et là, je suis assis, puis là, la louange commence. Puis là, je dis, t'aurais donc dû appeler, c'était François qui était à la louange, t'aurais donc dû appeler François pour lui dire, François, pourrais-tu mettre ce chant-là dans ta programmation? Parce que là, je savais que personne ne l'aurait su, mais moi et le Seigneur, on savait que ce chant-là aurait parlé à un couple ce matin-là. Et là, je savais très bien que ça aurait fait à leur cœur. Puis ça, puis là, je m'en voulais. Ah, que je m'en voulais. Ah, Benoît, tu en as manqué une, là. Je vous dis, j'en manque souvent, OK? Je suis souvent obligé de m'humilier, je suis souvent obligé de me demander pardon, je suis souvent obligé de... parce que, c'est ça, je vous l'ai dit, je suis un homme simple et pécheur et imparfait et bon, tout ça. Mais, en tout cas, là, j'inscris mon regret au Seigneur. Et puis là, le Seigneur me dit, écoute, j'ai pas entendu de voix, là, je suis pas fou, là, puis je suis pas un illuminé non plus, mais le Seigneur a interagi avec moi dans mon cœur, puis il dit, Benoît, tu penses-tu que j'aurais pas pu y penser, moi? Alors, ça, Seigneur. Là, vous avez pas vu ça, moi, je suis seul, ma femme est à côté de moi, puis là, je me penche la tête du Seigneur, je suis vraiment, non, c'est pas ça que je voulais dire, Seigneur, non. Seigneur, je sais que t'es bien plus capable que moi, bien plus intelligent. Je me lève, les yeux, le prochain chant, c'était quoi? Le timing est quand même spécial, OK? Donc, c'est le chant en question. Le chant apparaît à l'écran. Et là, imaginez-vous, là, je pars à pleurer. Là, ma femme voit bien que je pleure. Elle dit, Benoît, il doit être touché par le Seigneur. Oui, je suis touché beaucoup, beaucoup. Parce que le Seigneur, vous voyez, le combat de mon cœur, là, hein? Je suis là, Benoît. Je suis bien en selle. Je suis le Dieu de l'éternité. Tu sais, celui qui règne là sur les nations. Et oui, Seigneur, je sais. Mais tu bon. Fait que là, j'apprécie le chant, puis je trouve ça bon, puis ça me bénit énormément. Je pense au couple en question, puis là, je me réjouis. Tu sais, puis mais là, après que le chant soit fini, le Seigneur rajoute ceci. Et là, c'est dans mon cœur, mais j'ai pas fini encore. OK, là je comprends plus. OK, là, je ne saisis pas. Et puis là, qu'est-ce qui apparaît sur l'écran? C'est mon chant. Le chant de mon baptême. Alors là, le Seigneur ajoute ceci, celle-là, tu ne l'avais pas vu venir, tu n'y as pas pensé. Et là, j'ai dit, non, Seigneur, celle-là, j'y ai même pas pensé. Et il dit, moi, j'y ai pensé. Et là, j'ai eu tout un temps d'adoration. Comprenez? Tout un temps d'adoration. Et ça, c'est Jésus. Il veut utiliser sa parole. Il veut utiliser son Saint-Esprit. Il veut utiliser lui. Le fait qu'il est venu et en sa personne, on a l'image parfaite de Dieu, de son Père. et il veut nous parler à travers la prière. C'est un Dieu relationnel, pas intellectuel. Relationnel. Plein de connaissances. Relationnel. Il veut qu'on l'expérimente, qu'on vive la vérité. Parce que c'est la vérité qu'on va vivre qui va nous transformer. C'est pas celle qui est emmagasinée sur notre disque dur intérieur. Mais c'est celle qui vibre dans nos cœurs, qui interagit avec nous, parce qu'on est en communion avec lui. Prions ensemble. J'ai invité l'équipe de louanges. Seigneur Jésus, c'est devant toi qu'on se présente ce matin encore, et on veut juste te louer, te remercier, Seigneur, de ce que tu parles encore aujourd'hui. Tu fais entendre ta voix. Et on a tous besoin, Jésus, d'entendre ta voix. On a tous besoin d'être en communion intime avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour toi-même, Jésus, pour ce que tu es venu révéler de ton Père et de ce qu'en toi on a de, the whole package deal. On a tout ce qu'on a besoin en ta personne. Tu es la révélation de Dieu par excellence. Et merci pour la prière par laquelle on peut s'humilier, par laquelle on peut venir interagir avec toi et te demander de justement prendre la vérité, prendre ta parole, et qu'à travers ton Saint-Esprit, à travers toi, Jésus, qui est en nous, qui vit en nous, que cette parole devienne vivante, qu'elle s'applique à nos vies, qu'elle interagisse avec nous, là où on est, avec toutes les luttes intérieures, le combat de nos cœurs, avec les mensonges, les faux raisonnements, les luttes, les désirs, tout ça, Seigneur Jésus, expose-nous devant toi à ta lumière. Parce que tu veux nous faire du bien. Permets qu'on recherche ta face. Être en communion intime avec toi, Jésus. Parle à nos cœurs. En ton nom. Amen.